Dans les yeux de Vanek, à la Renaissance. Pour ce nouveau hors-série historique, je vous propose de me suivre sur les traces de Jan Vanek en Belgique, à Gand plus exactement, là où le peintre, au tout début du XVe siècle, honore une commande exceptionnelle, celle du retable de l'agneau mystique. Immense polyptyque constitué de 22 panneaux de chêne qui a plusieurs fois défrayé la chronique et qui est considéré comme un des plus grands trésors de l'histoire de l'art. Cette année, la Belgique et la ville de Gand honorent le peintre et son œuvre à travers plusieurs événements et une grande exposition au musée des Beaux-Arts de la ville. Nous allons voir comment Vanek reste un des peintres les plus exceptionnels de l'histoire et comment sa technique a participé à la révolution scientifique de la perspective.
Une huile si cative, très sèche, parce que la première peinture à l'huile était trop grasse et ça prenait beaucoup trop de temps pour sécher. C'est ça leur secret, hein. C'était vraiment une invention incroyable, hein.
Gand, 1432. La petite cité belge s'endort doucement. Les bruits des voix et le roulis des charrettes s'estompent. Le haut beffroi à l'allure de donjon massif attrape sa voilure du soir et se transforme en ombre secrète. À quelques mètres, les grosses pierres bleues de Tournai de la cathédrale Saint-Nicolas murmurent la prière nocturne. Dans une chapelle de l'église Saint-Jean, troisième édifice emblématique de la ville médiévale, un homme regarde les couleurs étincelantes d'un immense retable. À la lueur de sa bougie, il scrute les moindres détails et se satisfait des nuances obtenues, de l'illusion de la perspective, des délicates ombres portées sur les drapés des personnages. Dans le saphir ornant l'habit d'un ange musicien, il perçoit même le reflet de la fenêtre de la chapelle dans laquelle le tableau est installé. C'est celle de l'échevin Jousse de Vicht, le riche commanditaire. La musique semble s'échapper de cette œuvre qui se regarde comme une polyphonie sacrée. Il faut l'écouter autant que la regarder. Au centre, les yeux brillants et hypnotiques de l'agneau christique fixent chaque humain venu se réconforter ou se repentir. « J'ai réussi » a-t-il peut-être soufflé pour lui-même dans un discret soupir. À ce moment-là, le peintre Jan Vanek pense-t-il à son frère Hubert, mort en 1426, et à qui cette œuvre monumentale avait été commandée. Songe-t-il que son aîné aurait été rempli de fierté à la vue du travail terminé, avec brio et minutie. En face du retable, la dalle funéraire d'Hubert reste silencieuse. Dans quelques jours, le 6 mai 1432, l'œuvre sera inaugurée en grande pompe.
Regardez, on parle toujours d'Ève avec sa pomme. C'est pas une pomme, hein, c'est une étroque. Ça, c'est le précurseur du citron. C'est un fruit qu'on consommait pendant la fête des tabernacles, la fête juive des tabernacles.
Près de 600 ans plus tard, la magie opère toujours, même si l'œuvre reste en grande partie un mystère. On est émerveillé par l'incroyable virtuosité de la touche picturale, le réalisme saisissant des chairs d'Adam et d'Ève, la beauté parfaite des saints Jean-Baptiste et l'évangéliste, peints à la manière de statues d'ivoire semblant sortir du tableau. Le tout étincelle d'un velouté singulier, celui de la peinture à l'huile. Une technique toute nouvelle en ses premières années du XVe siècle en Flandre.
Il a perfectionné la technique à peindre avec de l'huile. Il n'a pas l'inventé, comme va dire Giorgio Vasari, le premier historien d'art italien 100 ans après sa mort. C'était une légende qu'il avait inventé cette technique, mais il l'a amélioré beaucoup. Et comme ça, il atteint des possibilités, des effets de couleur et de lumière qui ne sont jamais produits avant lui.
Yann Dumoulin, historien de l'art, spécialiste de la Renaissance flamande.
Mais avant tout, peut-être, il est l'artiste le plus génial sur le plan technique. Il sait représenter la réalité d'une manière naturaliste que personne avant lui, personne après lui, pas non plus d'autres grands artistes comme Leonardo ou d'autres n'ont pu faire. Il est le plus grand de certains aspects de toute l'histoire.
Van Eyck, le plus grand par certains aspects de toute l'histoire, nous dit Yann Dumoulin, et pourtant il est largement méconnu, beaucoup plus que Léonard ou Michel-Ange. Un oubli peut-être dû à la prépondérance traditionnelle de la Renaissance italienne sur les pays du Nord, un oubli dû aussi probablement à la biographie largement lacunaire du peintre, on ne sait presque rien de lui.
Cette idée que les soi-disant primitifs flamands, le mot même, ont été de moindre importance que la Renaissance italienne date déjà du 19e siècle. Donc c'était les primitifs flamands parce que c'était clair pour tout le monde qu'ils étaient brillants, mais ils n'avaient pas encore la perspective, l'harmonie classique de la Renaissance. Et c'est une idée qui vit encore, surtout en France aussi, je pense. Je pense que dans les pays du Nord, Van Eyck et les autres primitifs flamands sont plus appréciés en général. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui est connu par les vrais connaisseurs en premier lieu. Mais de notre point de vue, de la Belgique et de la région flamande, il est bien sûr un artiste canonisé, on peut dire. Il représente le comble de notre production culturelle.
Le tableau de Van Eyck est très tôt une légende. On sait que Dürer l'admire en 1521 et que le peintre flamand Michel Coxy, surnommé le Raphaël Flamand, en fait une copie à la demande de Philippe II d'Espagne. Sa renommée va presque surpasser celle de son auteur. Plus tard, au XIXe siècle, ne dira-t-on pas que le poète Maurice Maeterlinck, originaire de Gand, ne se déplacera jamais sans avoir avec lui une petite copie de la numismatique qu'il accrochait dans sa chambre? Assise dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand, anciennement l'église Saint-Jean, la même donc où Van Eyck a peint et s'est peut-être assis lui aussi, à quelques mètres du retable, notre guide de la ville continue de nous conter quelques éléments de cette histoire.
Il y a eu une copie qu'on a peint ici dans la chapelle en 1559, ça a duré 2 ans, parce que Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint, voulait amener la numismatique en Espagne pour décorer sa chambre. Et on a engagé Michael Coxis. C'est un peintre de Malines, mais c'est un peintre Renaissance. Il va passer des mois et des mois dans cette chapelle pour donc copier le tout, mais ça sera avec ses connaissances de peintre Renaissance. Donc Philippe II d'Espagne était très content, très satisfait, il l'a amené chez lui, mais n'oublions pas qu'en 1808, Napoléon a envahi l'Espagne. Et il a pris la copie, mais il a défait les panneaux et il a fendu les panneaux à droite et à gauche.
Sur la vie de Jan van Eyck même, comme sur la vie de beaucoup d'autres peintres de cette époque, on ne sait presque rien. On a une trentaine de mentions dans les archives, ce qui est déjà beaucoup pour le 15e siècle. La carrière de Jan van Eyck, qui vivait entre environ 1390 et 1441, est étroitement lié à la vie de la cour du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui sous son règne unifia les Pays-Bas pour en faire les Pays-Bas bourguignons, la Belgique et la Hollande actuelle en fait. La date et le lieu de sa naissance sont en fait inconnus. On passe Mazeik, qui est une ville près de Liège actuelle, mais donc c'était donc la principauté de Liège, mais la partie néerlandophone de cette région. On sait qu'il a un frère aîné, Hubert van Eyck, qui va s'installer à Gand et qui commence l'agneau mystique. Le premier mention fiable qu'on a de van Eyck, c'est à partir de 1422, et on le trouve à la cour de Hollande, du comte de Hollande. Il est à La Haye. Et en 1425, on le retrouve pour la première fois à Bruges, mais quelques mois plus tard, il est recruté par Philippe le Bon. Il est nommé varlet de chambre, c'est-à-dire comme artisan très talenté peintre. En recevant ce titre de varlet de chambre, il est en fait fait le peintre de la cour du duc de Bourgogne. Il s'installe donc d'abord à Lille, où il vit 2 ans. Et puis, il fait des voyages, entre autres au Portugal, pour faire le dessin de la future épouse du duc Philippe, Isabelle de Portugal, que le duc n'avait pas vue. Donc, il envoie son meilleur artiste, comme il n'y avait pas de photographie, évidemment, pour quand même voir cette femme une fois avant de la marier. Et puis, on le retrouve, Jan, à Bruges, à partir de 1431. Et c'est à Bruges, surtout, où pour les 10 dernières années de sa vie, il va développer son talent. C'est là donc où la plupart de ses grandes œuvres qui sont connues ont été faites. Il va devoir retourner à Gand pour finir l'agneau mystique.
22 panneaux de chêne constituent donc l'agneau mystique, toujours conservé à Gand. Pour les parties visibles lorsque le retable est ouvert, le grand panneau de l'adoration de l'agneau, au centre, montre sur un autel sacrificiel l'agneau au milieu d'un délicat champ de verdure sur fond de Jérusalem céleste. Au premier plan, une fontaine dont on s'émerveille des gouttes d'eau cristalline, tandis que sur la gauche, une assemblée de saints martyrs, un groupe de prophètes et de philosophes, assiste à la scène, en face de saintes martyrs et d'évêques. Le tout illuminé par de francs rayons traversant la peinture. De chaque côté de ce panneau central, deux groupes de 2 panneaux moins larges mais de même hauteur, représentant les juges intègres, les chevaliers du Christ et les ermites et les pèlerins. Au-dessus de ce registre inférieur, Dieu le Père entouré de la Vierge Marie et de Saint Jean-Baptiste, de 2 groupes d'anges musiciens, et à chaque extrémité, à gauche se trouve Adam et à droite se trouve Ève. Tout est peint avec une minutie extrême et un réalisme poignant. Il faut regarder les ombres portées, les reflets dans les nombreuses pierres précieuses et les pièces de brocart, les motifs de faïence bleu et blanc, des revêtements du sol, les innombrables éléments ronds ou circulaires, pierres précieuses ou armures de chevaliers, comme un prétexte pour le peintre, afin de montrer toute la dextérité dont il est capable, pour traiter des jeux de lumière et amener une profondeur, une perspective dans chaque élément du retable. Ce n'est donc pas un hasard si l'exposition actuelle qui se tient au musée des Beaux-Arts de Gand s'intitule « Van Eyck, une révolution optique ». Car contrairement à ses contemporains italiens, dont on voit une sélection de tableaux également dans l'exposition, Jan van Eyck n'utilise pas la perspective centrale et géométrique, mais plutôt la perspective optique. Il était très au fait de cette science à l'époque.
Cette révolution optique revêt 3 facettes. D'abord, sa technique de la peinture à l'huile, comme je viens de le dire. Deuxièmement, son observation du monde et sa peinture des phénomènes optiques provoqués par la lumière. Au sens large, on peut dire l'optique fait référence à la façon dont nous observons les choses. Et au sens étroit, il s'agit vraiment de l'optique, l'étude de l'action de la lumière.
À l'époque de Van Eyck, Plusieurs traités scientifiques circulaient dans les cercles érudits, comme celui de la cour bourguignonne. Au vu de l'intérêt de Van Eyck pour l'action de la lumière dans l'espace, pour donner corps à la profondeur et aux formes, il semble plausible qu'il ait eu accès aux écrits du scientifique arabe Al-Hazen, un des tout premiers à étudier la lumière et la perception de celle-ci par l'œil humain. Il réalise notamment une anatomie précise de l'œil. Plus simplement, il est le premier à comprendre que la lumière ne vient pas de l'œil, mais est produite par les objets pour ensuite entrer dans notre œil humain. C'est ce qu'il explique dans son traité d'optique, traduit en latin sous le nom de De Aspectibus, dans lequel il détaille les effets de réflexion, réfraction et diffraction de la lumière, en en détaillant les angles géométriques, notamment à l'aide de miroirs et de lentilles grossissantes. Un savoir particulièrement pertinent pour l'étude des œuvres de Van Eyck, où les ombres et les reflets semblent peints en respectant des angles de luminosité bien particuliers. Van Eyck n'est-il pas le peintre des époux Arnolfini, ce célèbre tableau dans lequel on voit un miroir? Il est également probable que Van Eyck ait lu les traités d'optique de l'anglais John Peckham, plus proche de lui, très apprécié à l'époque, et qui explique lui aussi les effets des ombres portées ou des déformations optiques dues à la lumière. De ce point de vue, Van Eyck semble avoir fait de ses peintures le manifeste de ce nouveau savoir.
Alors on a souvent dit, par exemple quand on regarde le panneau central de l'agneau mystique, qu'il n'y a pas un point de fuite. Et on trouvait que c'était archaïque par rapport à l'avancée des Italiens. Seulement, si vous considérez la perspective linéaire, c'est une perspective qui est créée, c'est une illusion, au fait. Hein. Et votre regard, quand vous regardez vers le point de fuite, par exemple ici, vous allez voir que, en effet, ça a l'air tout à fait correct. Mais notre regard ne s'arrête jamais. Donc votre regard bouge. Et quand on fait l'analyse des tableaux de Jean Van Eyck, vous avez quelquefois une arête de poisson ou des points de fuite très rapprochés. Et il tenait compte de ce regard qui mouvait dans le tableau. Hein, donc, par exemple, cette arête de poisson, il tenait compte de la vision binoculaire. Donc ça, ce n'est pas une façon archaïque, mais c'est plutôt du côté empirique. Il voyait bien que ce côté forcé n'était pas très naturel. Hein, donc ça, c'est pour différencier les deux écoles.
C'est aussi, bien sûr, pictor doctus, si vous voulez, un peintre érudit. Il maîtrise beaucoup de sciences, les artes, les arts libéraux de son temps. Il a lu Plinius, il connaît la géométrie. Il n'utilise pas le perspectif comme le font les Italiens, les Florentins de son temps, Masaccio. Mais il crée aussi une certaine profondeur dans son art en utilisant la géométrie, mais pas la perspective linéaire. Mais ce qui est vrai, et ça devient aussi de plus en plus clair avec la restauration de l'agneau mystique, où on peut vraiment observer comment Van Eyck joue avec la lumière et la couleur grâce à cette technique à l'huile fortement améliorée. Et c'est un exemple qui va inspirer des peintres partout en Europe. Donc les Italiens vont apprendre cette technique des Flamands, et ce que dit Vasari, bon, ces Flamands, ils sont un peu rudes, paysans, mais ça quand même, on en a appris deux.
Dans l'exposition sont présentés les panneaux déjà restaurés du retable, ceux que l'on voit quand le retable est en position fermée. Le couple de commanditaires, agenouillés de trois quarts, Saint Jean l'Évangéliste et Saint Jean-Baptiste peints à la manière de belles et monumentales statues de marbre, une jolie vue de Gand depuis une fenêtre divisée par une colonne, une vue plus domestique d'une petite alcôve intérieure abritant un pichet en étain aux côtés d'un torchon peint lui aussi de trois quarts. Ces parties du retable exceptionnellement montrées dans l'exposition, aux côtés des panneaux d'Adam et Ève, qui eux n'ont pas encore fait l'objet d'être restaurés, sont un véritable événement, surtout qu'ils sont accompagnés d'une dizaine d'autres peintures de Van Eyck, dont certaines, si fragiles, n'avaient jamais quitté leur musée d'origine. On ne connaît qu'une vingtaine de tableaux de Van Eyck aujourd'hui. En voir autant réunis est donc exceptionnel. La visite de l'exposition donne lieu à de multiples interprétations et surtout des comparaisons entre peintures italiennes et peintures flamandes à cette époque. C'est en tout cas ce que l'exposition a voulu mettre en avant, avec, et c'est peut-être, dirons-nous de bonne guerre, une volonté non dissimulée et peut-être un peu provocatrice, de montrer la supériorité de Van Eyck sur ses contemporains méditerranéens. Il faut reconnaître que cette première grande exposition sur le peintre flamand valait bien cette consécration, suivons quelques pas d'une guide.
Si on regarde la façon de représenter l'ange Gabriel et de la Vierge, vous voyez, assez typique pour les Italiens, c'est la préférence du profil. Le profil qui permet d'idéaliser une figure. Alors si vous regardez la Vierge ou l'ange Gabriel chez Van Eyck, vous allez voir qu'ils sont tournés de trois quarts, ce qu'ils faisaient déjà dans les portraits, parce que de trois quarts, vous ne pouvez plus tricher. Idéal contre réel, ça c'est aussi une très grande différence entre les Flamands et les Italiens. Donc vous avez la concentration focale de la lumière à l'arrière du saphir. Donc la lumière peut pénétrer, c'est une pierre translucide. Tandis que les petites perles, ce n'est pas translucide, donc vous voyez que la lumière va tournoyer. Lorsqu'elle impacte la perle. Alors, il y a énormément de perles sur le polyptyque.
Le réalisme chez Van Eyck, on ne peut pas être plus réaliste que Van Eyck. Mais ce n'est pas seulement ça. Quand Van Eyck peint une matière, même si c'est... Il peint aussi la création de Dieu. Il peint la matière avec sa brillance parce que c'est le monde que... Il y a toujours cet aspect religieux. C'est la création, il est serviteur de son œuvre, de l'œuvre divin, si vous voulez. Ce n'est pas seulement pour montrer le prestige de ces gens-là, c'est un programme théologique en même temps.
Depuis 2012, une grande restauration du polyptyque de l'Agneau Mystique est en cours. D'une simple restauration de nettoyage, les spécialistes ont dû finalement entamer une restauration beaucoup plus en profondeur lorsqu'ils ont compris que le retable avait été repeint à 70% au cours du XVIe siècle. Des couches de repeint qui n'avaient pas été détectées jusqu'ici, car elles suivaient avec une grande précision les lignes d'origine des frères Van Eyck. Cette révélation du véritable tableau de Van Eyck ressuscite cette œuvre mythique. On y découvre des détails insoupçonnés que les restaurateurs ont révélés en enlevant minutieusement, au scalpel, centimètre par centimètre, les couches de vernis successives.
Ça, c'est encore des photos prises avant la restauration, donc vous voyez que tout est beaucoup plus jaune. On était époustouflés de voir tous ces détails. Oui, parce que tous les surpeints ont quand même caché une partie des détails. Et le don de ces frères Van Eyck, c'était qu'ils avaient un regard et une observation incroyable. Ça a pris 4 années pour faire juste les panneaux extérieurs, donc avec toute cette équipe de 8 personnes. Et il faut s'imaginer que les restaurateurs ne peuvent pas travailler plus que 4 heures par jour, c'est trop intense. Et donc le restant, les panneaux intérieurs du haut, seront restaurés après l'année 2020.
Au Moyen-Âge, le retable en fait était présenté la plupart du temps fermé. Donc on voyait les retables, et on voyait les volets qui sont représentés à l'exposition. Donc je vais vous le fermer. En général, il était fermé de cette manière, comme c'était le cas de la plupart des polyptyques, des triptyques de cette époque-là, pour protéger en fait les peintures intérieures qui étaient beaucoup plus précieuses. Et c'est assez normal que les revers aient un aspect plus sobre que l'intérieur.
Hélène Dubois, restauratrice du retable auprès de l'Institut royal du patrimoine artistique belge.
Donc toute cette première phase a commencé en 2012 et donc le projet initial était un projet vraiment de conservation, de stabilisation et aussi avec une amélioration esthétique qui était voulue. En effet, les œuvres paraissaient extrêmement alourdies, très très jaunies, très brunes, masquées par les vernis, mais ça devait rester assez modeste. Et après le dévernissage, en fait, le vernis masquait la texture de la peinture, masquait toutes les craquelures. Et alors, au cours du dévernissage, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne faisait pas face à la couche picturale de Van Eyck, mais à une couche picturale qui avait été surpeinte très très tôt dans l'histoire matérielle de l'œuvre. Mais à ce moment-là, on ne savait pas exactement à quelle date. La raison pour laquelle ceci n'avait pas été vu par le passé, c'est que les surpeints sont très bien faits. D'ailleurs, on n'a jamais envisagé que ça puisse être possible. Aussi d'envisager qu'on surpeigne l'agneau mystique, ça apparaît tout à fait impossible mentalement. Les surpeints, en fait, suivent les contours assez soigneusement et imitent, sans arriver au même raffinement, la technique de Van Eyck, mais simplifie les plis, les rendent plus organiques, les rendent plus naturels que en fait, l'œuvre de Van Eyck, l'œuvre originale, où on a une tension, un certain niveau d'abstraction qui a été gommée par les surpeints. Et suite à des examens complémentaires avec l'université de Gand, l'université d'Anvers, et toutes sortes d'applications de techniques non invasives, des analyses de pigments aussi à l'Institut, on s'est rendu compte en fait, que 70% de la surface était surpeinte, avec une couche picturale très soignée, qui utilisait des pigments de grande qualité. Et ce surpeint était appliqué, en fait, pas directement sur l'original, mais sur plusieurs couches de vernis. Ce qui voulait dire que l'agneau mystique avait été restauré plusieurs fois, reverni plusieurs fois, avant d'avoir été surpeint de cette manière. Et dû à la présence de ces vernis très épais, on a pu mettre au point une technique de dégagement de l'original qui était protégée en fait par ces vernis intermédiaires. Au fur et à mesure de l'étude, on s'est aussi rendu compte finalement que les surpeints étaient antérieurs à la copie réalisée par Philippe II par le peintre Michiel Coxy, une copie qui date de 1557 dont justement certains des panneaux sont présentés dans l'exposition, et donc ce qui permettait de dater cette campagne avant la copie, 1557, donc avant le milieu du XVIe siècle. Maintenant, cette décision n'est pas du tout évidente. Au niveau éthique, est-ce qu'on peut se permettre d'enlever un surpeint si ancien qui fait vraiment partie de l'histoire matérielle de l'œuvre? C'est une question qui ne va pas de soi. On ne va pas à la recherche dogmatique de l'original, ça n'en est jamais question. Mais dans ce cas-ci, l'original était tellement extraordinaire de qualité, tellement unique aussi au niveau de la création et tellement important dans l'histoire de l'art européen, que les experts ont vraiment conseillé de faire ce dégagement qui, comme je le disais, était techniquement possible.
Depuis 8 ans, le visiteur du musée peut donc suivre, derrière une vitre, la restauration du polyptyque. Sur un tel chef-d'œuvre, les regards se braquent pour fixer le visage restauré de l'agneau qui a perdu son aspect grossier au profit de deux yeux hypnotiques au regard christique. On est face à la touche originale des frères Van Eyck, révélée ici dans un parfait état, celle-là même qui avait déjà été masquée au XVIe siècle.
Ici, c'est restauré et on voit que ce sont des yeux humains, ce sont les yeux du Christ, c'est le Christ qui vous regarde.
Donc, l'agneau était transformé au XVIe siècle. On a une tête plus large, des yeux latéraux, comme dans un agneau correct, et des oreilles beaucoup plus grandes, perchées plus haut sur le crâne. L'agneau équien a des yeux placés frontalement, comme dans un crâne humain, et des oreilles plus basses, comme dans un crâne humain également. Alors, au XVIe siècle, quand on a changé la tête, on a surpeint l'herbe autour de l'agneau et on a caché les petites oreilles originales. Alors en 1951, au cours d'une restauration à l'époque aussi très importante, après la guerre, on a dégagé les surpeints autour de l'agneau et donc on a dégagé les petites oreilles originales, mais on a laissé les oreilles ajoutées. Et donc depuis 1951, l'agneau avait 4 oreilles. Mais tout le monde s'y était habitué. C'est-à-dire que le choix qui a été fait, donc, ça a été de révéler l'original, redécouvrir cet agneau équin qui est extraordinaire, qui est très, très bien peint, qui a un visage en effet presque humain, mais des yeux de mouton, il a des yeux d'agneau. C'est la forme, le fait qu'il soit si frontaux et si grand, qui a l'impression que c'est un peu comme une expression humaine, mais c'est des yeux d'agneau. J'insiste vraiment pour dire que ce type de dégagement est assez unique. C'est très très rare qu'on fasse ce genre de choses. Donc dégager un surpeint si ancien, d'une part, c'est en général, techniquement, ça n'est pas possible. Et d'autre part, on a tendance à garder ces surpeints si anciens parce qu'on considère qu'ils font partie vraiment de l'œuvre, qu'ils ont donc ils jouent un rôle très important dans ce sens-là. Mais c'est l'agneau mystique. On n'est pas face à une œuvre banale. C'est une œuvre unique, extraordinaire, et donc ce traitement a permis de la révéler à nouveau. On a une documentation extrêmement poussée de ce surpeint, donc on n'a pas enlevé et faire quelques photos. Tout ça a été photographié de très très haute résolution. Les échantillons ont été pris de chaque couleur pour en garder, pouvoir les analyser. Et donc voilà, on a fait vraiment une documentation, je pense, incomparable par rapport, il n'y a aucun autre projet existant où on aille si loin au niveau de la documentation.
L'histoire de l'agneau mystique est rocambolesque, le tableau le plus volé de l'histoire, disent même certains passionnés de l'affaire. En effet, dès le XVIe siècle, l'œuvre réchappe de justesse aux crises iconoclastes, plusieurs fois cachée et déplacée. Il se verra ensuite en partie divisé lorsque les Français emmènent le panneau central pour l'exposer au Louvre au moment de la Révolution, sans aucune autorisation. Quelques années plus tard, ces panneaux latéraux, excepté Adam et Ève, sont vendus au milieu du XIXe siècle, puis coupés en deux, tout simplement à la scie mécanique, pour être exposés au Bode-Museum de Berlin pendant près de 100 ans. En 1934, le panneau des juges intègres est volé et il ne sera jamais retrouvé. D'ailleurs, à Gand, encore aujourd'hui, posez la question aux habitants, on cherche toujours ce panneau manquant, au point de creuser la ville régulièrement en plusieurs endroits. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis s'emparent du retable pour le déposer au château de Neuschwanstein, en Bavière, puis dans la mine de sel d'Altaussee, en Autriche, aux côtés d'autres chefs-d'œuvre spoliés. Ce n'est que grâce au Monument Mainz que l'agneau mystique sera sauvé, puis retrouvera sa ville natale de Gand.
Jan van Eyck est en fait une personne qui aussi, si vous voulez, entre le monde de la noblesse, de la cour de Bourgogne, qui connaît les grands nobles, les princes de l'Église de son temps. Mais d'autre côté, c'est aussi un artisan qui fréquente des milieux urbains. Les villes de Flandre, Bruges et Gand étaient les plus importantes et les plus grandes villes du nord-ouest de l'Europe, après Paris, évidemment. Et donc, c'est aussi une époque, les années 1420-30, où Bruges devient en fait aussi important pour l'art et l'industrie de luxe que Paris. Parce que c'est l'époque où, ici en France, il y a la guerre civile entre Bourguignon et Armagnac. Le monopole en fait de Paris comme capitale culturelle de l'Europe est un peu tombé en ce moment, et Bruges devient, pendant le XVe siècle, en fait, le centre de la production culturelle de ce qui est en train de devenir l'État bourguignon. La vie de cour, la splendeur bourguignon qui est assez connue, et dont Jan, comme peintre de cour, joue aussi un grand rôle en décorant les résidences de Philippe le Bon, mais ce sont des œuvres qui ne sont pas conservées. On a des Jan van Eyck seulement ses œuvres religieuses, de petits panneaux et des portraits qu'il a fait. Donc on savait déjà un peu où était sa maison, mais donc maintenant on a fait un examen du quartier de Jan van Eyck et il vit en fait dans Bruges est la ville la plus commerçante de l'Europe du Nord-Ouest, donc le grand marché international qui liait le monde méditerranéen et le monde du mer du Nord. Jan van Eyck vivait dans ce quartier vraiment de commerce, entouré par des banquiers, des financiers de Luc ou de Gênes. Il travaille aussi pour des marchands italiens, bien sûr, et même qu'il... Il n'a pas été en Italie lui-même, mais il avait des clients italiens qui sont aussi dans cette rue. Il y a des auberges où les marchands étrangers vivent. Donc, c'est vraiment le cœur de Bruges, le quartier riche. Ce n'est pas surprenant en soi qu'un artiste comme Van Eyck s'établit exactement là-bas.
Van Eyck was here. C'est le nom donné à l'année Van Eyck par la Belgique, qui célèbre depuis 3 ans ses grands peintres dans le cadre du programme Flemish Master. Si la restauration de l'agneau mystique et l'exposition du musée des Beaux-Arts en sont les points d'orgue, plusieurs autres événements ont lieu tout au long de l'année 2020, comme une exposition au musée du design pour célébrer les couleurs de Van Eyck. Plusieurs restaurants de la ville vont aussi retrouver le mode de vie et la façon de se nourrir du Moyen-Âge.
Donc bonjour, je suis Oli Kulenaar, chef du restaurant public à Gand. En fait, Gand, pour l'instant, c'est une ville assez dynamique. Mais en fait, ça a toujours été comme ça, aussi dans le temps de Van Eyck. Tous les jours, de quoi fêter, de manger et de boire. Et maintenant, on commence à découvrir tout ce qui s'est passé, en fait. Donc c'est une période vraiment intéressante pour nous. Avec l'histoire d'avant, on peut faire des choses aujourd'hui. En fait, il y a plein d'ingrédients que dans le temps on utilisait et maintenant qu'on utilise encore toujours. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment médicinales, que maintenant on commence à utiliser dans la cuisine. On voit la nouvelle cuisine que les jeunes se dirigent vraiment vers la région, la saison. Ce qu'on a fait en fait, c'est avec tous les tableaux de Van Eyck, où on a demandé à des spécialistes, ils ont gardé tous les tableaux, ils ont tout sorti, tout ce qu'il y avait à manger, donc les plantes qu'il y avait à manger, les produits, mais ils ont aussi regardé comment on mangeait dans ce temps-là. Les restaurateurs, les cafés, les fromagers, les brasseurs, et avec toute cette info d'avant, on fait des toutes nouvelles choses aujourd'hui.
Et vous, dans votre vie, dans votre imaginaire, dans votre vie d'habitant de Gand, quelle importance ce tableau a pour vous?
Bah, de plus en plus, pour être honnête, je ne le connaissais pas trop. Quoi. Donc, quand on est jeune et adolescent, on ne va pas trop voir les tableaux, mais de plus en plus, j'y passe.
C'est une manière de lier le passé et le contemporain.
Voilà, ouais, c'est le lien, quoi.
Vous avez hâte de voir le tableau restauré?
Oh oui, ouais. Qui a son originaire dans le temps, quoi. Ouais.
Et c'est une bonne impulsion pour vous que la ville de Gand, comme ça, retrouve un peu ses origines à travers ses figures historiques?
C'est super que la ville est là, ça, que la ville de Gand à Van Eyck. Ça doit être super que d'autres villes ont ça aussi, mais nous on a Van Eyck et on est en train de découvrir et revivre plein de choses, de faire partager le plus de monde possible, et tout le monde est hyper enthousiaste. Et comme je disais, c'est vraiment dynamique, ça, c'est un mouvement qui devient de plus en plus grand, quoi.
En un mot, on mangeait plus sain avant ou pas?
Ouais, je pense bien, ouais. Ouais, 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 clair.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à manger, alors je crois que je vais rester ici, je vais goûter un peu.
D'accord, un grand plaisir.
Merci beaucoup.
Voilà.
Le grand peintre n'a pas fini de nous fasciner et d'inspirer notamment la musique. Sur le retable de l'agneau mystique, dans sa position ouverte, les panneaux qui encadrent Dieu le Père, la Vierge et Saint Jean-Baptiste représentent à gauche des anges qui chantent et à droite des anges musiciens. Revêtus de magnifiques robes de brocart, Il présente des postures et des expressions du visage si précises que les spécialistes ont pu analyser quelles sortes de notes de musique s'échappaient de leur bouche. Regardez leurs fins cheveux blonds bouclés ornés de diadèmes de pierres précieuses, le détail dans la représentation des instruments de musique, la harpe, la viole et le grand orgue qui occupe les trois quarts de la composition du panneau de droite. Là encore, Vanek montre ses connaissances dans l'évolution technique et stylistique de son temps, celle des instruments de musique. Cet orgue est si impressionnant que des musiciens actuels ont pu le réaliser à nouveau sur le modèle de celui de l'agneau mystique. Au printemps 2020, à Gand, la musicienne Catalina Vicens réalisera une performance avec un orgue portatif de type médiéval, inspiré du grand orgue représenté par Vanek. Ce sera dans l'église Saint-Jean, le 9 et le 10 mai. Écoutons un court extrait de Catalina Vicens jouant de l'orgue portatif médiéval. Et imaginons, repensons aux couleurs de Vanek.
Quand il s'agit de la musique médiévale et on a besoin d'une illustration, on utilise toujours ces deux anges musiciens, même quand ils n'ont rien à faire avec le sujet. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque où Vanek était présent à la cour de Bourgogne et à Bruges, c'était en fait, comme je l'ai dit, une époque où non seulement la peinture était révolutionnée, mais à Bruges aussi, et aussi à Tournai et dans d'autres villes des Pays-Bas bourguignons, la musique polyphonique est en train de se développer. L'église de Saint-Donatien à Bruges était l'un des centres les plus importants dans ce développement de la polyphonie flamande, on dit parfois, ou franco-flamande. Et il y a deux compositeurs qui étaient aussi des chantres à cette église, comme ils étaient des clercs, payés comme des chantres à cette église de Saint-Donatien, que Vanek a peut-être ou sans doute connu, c'est Gilles Binchois et Guillaume Dufay. Ils appartiennent à la première grande génération des polyphonistes flamands, avant que Orlando di Lasso et d'autres qui sont Josquin des Prés, qui sont peut-être plus connus.
Le célèbre festival de musique de Gand aura lieu en septembre et va célébrer justement la musique polyphonique de l'époque de Vanek à travers plusieurs compositions musicales, dont une réalisée par le compositeur estonien de renommée internationale, Arvo Pärt.
La composition de cette polyptyque de l'agneau mystique est exceptionnelle et jusqu'à présent, aussi pour beaucoup de spécialistes et pour tout le monde, incompréhensible. Il y a tant de théories sur le programme théologique, sur cette énormément compliquée et oui, il y a des centaines de livres et d'articles écrits sur ce tableau, donc du point de vue iconographique, c'est un des tableaux les plus complexes de l'histoire de l'art, sinon le plus complexe. Mais comme ça, on a quand même encore beaucoup de travail et les historiens d'art ne vont pas être au chômage grâce à des tableaux comme cela. Il reste beaucoup à faire et beaucoup à discuter et à spéculer et à faire des hypothèses.
L'agneau mystique a donc toujours attisé les passions et reste un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. En octobre 2020, il rejoindra son écrin d'origine, la cathédrale Saint-Bavon, dans laquelle un nouveau parcours de visite a été pensé. Normalement, il ne devrait plus jamais bouger et s'offrir à la vue des visiteurs, complètement restauré à l'horizon 2024. Dans les yeux de Vanek, l'agneau mystique restauré, un documentaire historique sonore de Julie Chaise-Martin, réalisé en partenariat avec Visit Flanders. Vous avez pu entendre lors de cette émission des extraits musicaux, extraits de Chopin, prélude en ré majeur, extraits de Gilles de Binche et de Guillaume Dufay, extraits de jazz de l'artiste Jean-Marc Foltz, extraits d'Arvo Part, Berliner Messe numéro 7, extraits de Catalina Vitens à l'orgue portatif médiéval. Toute l'année, Vanek célèbre donc le grand peintre à Gand avec l'exposition Vanek, une révolution optique à voir jusqu'au 30 avril 2020 au Musée des Beaux-Arts de Gand. Également une exposition au Musée du Design, Kleurreich, les couleurs de Vanek dans le design, jusqu'au 6 septembre 2020. Enfin, Lights on Vanek, du 28 mars au 1er novembre 2020, en l'église Saint-Nicolas. La perspective et la géométrie dans les œuvres de Vanek, une exposition à voir du 21 mars au 31 décembre 2020 au Musée de l'Université de Gand. Facing Vanek, The Miracles of the Details, du 24 septembre au 10 janvier 2020, au Palais des Beaux-Arts, Beaux-Arts, à Bruxelles.